CFM Cahors, le mag.
Et bienvenue sur CFM Cahors, c'est l'heure de votre mag en ce mardi 26 octobre. On va s'intéresser à une association qui fête ses 50 ans. Et croyez-moi, des associations qui fêtent 50 ans, quand même, c'est pas tous les jours qu'on en voit. Il y en a quand même quelques-unes, heureusement, hein, mais celle-là, elle tient bon, elle tient, bah, j'ai envie de dire, elle est solide comme du rock, elle est bien bâtie, elle a de bonnes bases, elle a de bonnes fondations, et c'est normal, puisqu'elle s'intéresse aux maisons et paysages du Quercy. Je reçois effectivement l'association de pour la sauvegarde des maisons et paysages du Quercy. Alors, quel est leur rôle ? C'est quoi finalement une maison et un paysage du Quercy? Ils vont aussi nous donner leur définition. Et puis surtout, ce samedi, ils proposent une conférence publique sur le thème « Protéger le patrimoine, l'État, les élus et les associations, bilan et perspective ». Je reçois donc Olivier Pretola, qui est le président de l'association, et Thérèse Rességuier, qui en est la secrétaire. Bienvenue, vous êtes sur CFM Cahors, c'est le mag. Alors, l'association pour le Quercy, la protection des maisons et du paysage du Quercy, depuis 50 ans que vous existez, c'est déjà quand même, on va dire, quelque chose de très très beau, c'est bien. Alexandre, c'est le nom du conférencier de samedi. Olivier Pretola, bonjour.
Bonjour.
Et Thérèse Rességuier, bonjour.
Bonjour.
Alors, 50 ans, hein, c'est quand même assez exceptionnel pour une association. Hein. C'est vrai qu'il y en a... J'ai l'impression que les associations qui durent longtemps, elles ont des bonnes fondations. Alors vous, il y a une, comment dirais-je, la fondation qui vous unit, c'est quoi ? C'est les maisons et les paysages du Quercy, c'est ça ?
C'est exactement ça. Et l'association s'est intéressée aux maisons modestes du Quercy, aux maisons paysannes, à tout ce qui les entoure, à une époque où ça n'intéressait pas grand monde. Donc dans la fin des années 60, début des années 70. Elle a été créée en 71 pour cela. Et elle a un grand précurseur, qui est le docteur Kella, qui, dès la fin de la guerre, s'est intéressé à cela, alors que personne ne s'y intéressait, qu'on détruisait les vieilles granges, les vieilles maisons paysannes. Il les a prises en photo, il a fait des bouquins là-dessus, et c'est notre père fondateur, c'est celui qui a inspiré notre action, la création de cette association en 71.
Mais elle a bien un truc particulier, cette maison du Quercy, pour qu'on puisse s'y intéresser au niveau, comment dirais-je, vouloir les protéger, vouloir les sauvegarder. En Alsace, on sait très bien les maisons à colombages ou autres, par exemple. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, la maison du Quercy ? Alors, on reviendra après sur le paysage, hein, parce qu'il vous plaît aussi, celui-là.
Il n'y a pas une maison du Quercy. Parce qu'en fait, on a des régions naturelles différentes. Entre le Ségala et le Quercy blanc, pour prendre deux exemples...
L'architecture n'est pas la même.
L'architecture n'est pas la même parce que la nature n'est pas la même. D'accord. Et ce sont des maisons paysannes qui ont une belle architecture adaptée à leur région. Les constructions sont faites avec les matériaux de la région. C'est écologique comme construction, finalement, avant l'heure, aux fonctions qu'on veut leur donner. Donc, selon qu'on est dans une région plus froide et pluvieuse, selon qu'on est dans une région calcaire, sèche, d'élevage ou non, eh bien on va avoir des maisons différentes. Mais ce qui les unit, c'est cette adaptation à la nature et leur importance. Dans une région qui était pauvre, les paysans ont su construire des magnifiques maisons. C'est leur art. Cet art de la construction.
Et avec, j'imagine, ce qu'il y a, les matériaux qu'il y a aux alentours, j'imagine.
Absolument. On n'allait pas chercher les matériaux très loin.
Ouais. On prenait ceux qu'on avait. On n'allait pas en Chine chercher.
Absolument. Ouais. On créait une carrière là où la pierre convenait. Et il y avait des artisans qui avaient une connaissance intime des matériaux disponibles, que ce soit la pierre, la terre, parce que souvent c'était bâti à la terre, le sable qui était pris dans le ruisseau, dans la rivière à proximité. Et il y avait également l'amour-propre, c'est-à-dire il y avait cet art de bâtir, qui est un art majeur du Quercy, qui est fait d'une fierté de bien faire. Et ça a donné le résultat que nous voyons depuis la maison modeste du brassier jusqu'à la maison plus importante d'un propriétaire qui était plus aisé.
Mais comment vous en êtes venu à vous intéresser à ça ? Ça fait partie de votre métier, de votre carrière professionnelle ? Vous avez un rôle dedans, non ? Même pas ? Architecte, urbaniste
Non.
Paysan, peut-être ?
Paysan, certainement. Les origines paysannes, c'est l'attachement à une terre, je pense, à un lieu, à une région, à des paysages, avec, je dirais presque plus le sentiment de lui appartenir.
D'accord.
Que de posséder.
Donc le paysage, on imagine que pour vous, le paysage du Quercy, il est particulier aussi alors ?
Les paysages.
Les paysages, ah !
Les paysages, parce que, observons notre département, au nord, disons nord-ouest, on confine à la Dordogne, Souillac et près de Sarlat. Nous partons un peu vers l'est, Martel, nous sommes près de la Corrèze. Sous Sérac, la Tronquière, c'est le piémont auvergnat, jusque Figeac. Et puis on descend, on fait le tour, on arrive vers Cajard, Limogne. Et là, on confine à l'Aveyron.
Vous êtes en train de me dire que le Lot n'a pas que... c'est pas le même paysage partout dans tout le département, alors ?
Mais absolument, il ne faut pas imaginer que la maison quercinoise, c'est la maison à Bolette. Mais il n'y a pas
la
que...
La maison à ?
À Bolette.
Ça veut
le
dire...
Bolette. Le loup Bolette ou loup Balette,
ouais.
Selon... oui, j'ai
en
beaucoup
Occitan,
de plaisir
ouais.
à le dire ouais. en patois, parce que je suis fille de paysan,
d'accord.
Et je comprends le patois, je le parle un peu. Ça fait partie de mes richesses, je considère. Et donc, loup Balette ou loup Bolette, eh bien, c'est cette petite terrasse en haut de l'escalier sur laquelle pouvait se tenir... la grand-mère qui préparait les légumes pour la soupe, ou le grand-père qui, de ses doigts noueux, écossait les fèves ou les haricots. Mais ça, c'est une maison particulière sur le Causse, un petit peu en début de vallée. Mais confine à ces maisons des bâtiments plus importants, plus vastes, tout en sachant qu'on peut avoir un ballet également avec des maisons plus grandes. Enfin, à mon sens, ce qui caractérise notre département, c'est cette grande diversité d'architecture. On le retrouve dans d'autres départements. Hein. Ce n'est pas unique.
Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas les mêmes...
Mais ne disons pas la maison du Quercy, les maisons.
Du Quercy. Quelles sont vos actions alors pour les faire connaître, ces maisons et ces paysages du Quercy, Olivier Pretola ?
Alors, en final, notre objectif, c'est de les sauvegarder, les paysages.
Oui, mais c'est...
Mais il faut commencer par autre chose.
Ah.
Il faut commencer par sensibiliser les gens à ce que ça représente comme valeur. Esthétique, valeur humaine, valeur historique.
Ouais.
Il faut faire connaître. Et faire connaître, c'est une de nos activités très régulières. Tous les ans, on organise 4 ou 5 visites de maisons, quelquefois chez des particuliers, où ça peut être des chapelles, ça peut être des lavoirs, etc. Mais des visites avec des gens très spécialisés, des amoureux de ces éléments-là, qui permettent de mieux faire connaître à la fois l'architecture, la façon de construire, ce qui fait qu'elles sont belles, finalement, ces constructions. Donc, faire connaître, c'est important, les visites, mais aussi, un autre élément, c'est les conférences. On en fait une ou deux chaque année sur un thème particulier, et puis on communique à travers, quelquefois, des articles ou un site Internet. Voilà, c'est la première étape. Pour bien protéger, bien sauvegarder, il faut d'abord bien connaître.
Alors, sauvegarder justement le paysage, c'est aussi un peu la spécialité de votre association aussi, parce qu'évidemment, l'homme a toujours tendance à vouloir bétonner, construire un peu n'importe où, n'importe comment, du moment que ça rapporte de l'argent. C'est un petit peu aussi votre bataille, Thérèse ?
Ça, effectivement, ça a été parfois notre combat, et nous savons que ça va continuer. Alors... Nous avons pleinement conscience que le paysage, il n'y a rien de plus mouvant que le paysage. Le paysage, il évolue avec l'économie, avec l'agriculture. C'est l'agriculteur est un grand bâtisseur de paysages. Et on a entendu dire parfois, oh ben ça, c'est un paysage de prime européenne. Évidemment, il y a eu les époques des grands champs de colza, nous avons les époques des grands champs de tournesol, mais c'est pas grave, parce que là, ça change avec chaque saison. Il y a des dangers beaucoup plus grands. Sans se lancer dans ce sujet-là très vaste, mais la déprise agricole va continuer à modifier nos paysages. Pour ma part, à mon âge, j'ai vu l'évolution du paysage avec nos coteaux du Quercy blanc qui étaient blancs. Il y avait des chênes rabougris et aujourd'hui, la végétation a pris le dessus.
Il n'est de blanc que le nom, alors, maintenant.
Alors, il reste bien blanc encore. Hein. C'est avec plaisir que je guiderai qui le veut sur de magnifiques plateaux étincelants sous le soleil.
Alors, on va préciser que vous êtes vraiment native du département et vous en êtes amoureuse. Hein, ça se voit, ça s'entend. Hein, quand vous en parlez, vous le faites avec passion, Thérèse Rességuier. Vous avez habité où, dans quel coin vous êtes née?
Alors, je suis née en Quercy blanc, dans une petite commune qui porte le joli nom de Sainte-Alauzie.
D'accord, très bien. Que je ne connais pas encore, hein, parce que je n'ai pas encore eu le temps, en peu de temps, de visiter tout le Lot, qui est quand même, il y a suffisamment de choses à voir quand même. Hein. De ce côté-là, on est gâtés aussi.
Il y a beaucoup à découvrir.
Du coup, alors, le mois prochain, enfin non, ce samedi, pardon, pourquoi je dis le mois prochain? Ce samedi, pour fêter votre 50e anniversaire, vous organisez une conférence. Vous offrez les services, j'ai envie de dire, d'un professeur d'histoire de l'art à la Sorbonne, dites-moi.
Oui, alors ce professeur s'appelle Alexandre Gady. C'est un homme savant, très connu comme historien de l'art. C'est aussi un passionné de la défense du patrimoine. C'est aussi pour ça qu'on l'a invité.
Bien sûr.
C'est, par exemple, un grand pourfendeur des éoliennes dans nos paysages français. Donc c'est à la fois un historien, un homme compétent et en même temps un homme très engagé. Il a dirigé notamment, il a présidé plus exactement, une grande réunion d'associations qui s'appelle Sites et Monuments, qui s'intéresse à la protection des paysages et des monuments français.
Alors, le sujet de cette conférence, protéger le patrimoine, l'État, les élus, les associations, bilan à perspective, qu'est-ce qu'il va nous apprendre?
Eh bien, les choses évoluent et chacun a son rôle à jouer dans la protection du patrimoine. Les enjeux ne sont plus les mêmes qu'hier, d'une part, et d'autre part, l'État, les élus et les associations n'ont plus à avoir exactement le même rôle. Si je vais prendre un exemple qui nous concerne directement. Le rôle de l'association à sa création, c'était beaucoup de conserver des maisons paysannes du Lot, qui étaient souvent détruites pour construire mieux à côté, mieux dans l'objectif de ce qu'ils faisaient. Détruisaient des granges, détruisaient des murs de pierre sèche, tout simplement, etc. Donc il y a eu une grande période où il fallait protéger cela. Il y a encore des destructions, mais ce n'est pas l'objectif principal. L'objectif, il est aujourd'hui de protéger contre les nuisances visuelles énormes, la destruction des paysages, on pourrait dire, que peuvent introduire notamment certaines énergies renouvelables comme l'éolien. Voilà, c'est donc les enjeux évoluent, les moyens juridiques évoluent, les ressorts pour faire jouer l'opinion évolue aussi. Donc il faut faire un point sur tout cela.
C'est votre rôle, à vous aussi, de vous battre contre les éoliennes?
Alors, c'est pas un objectif en soi de se battre contre les éoliennes. L'objectif, c'est de protéger les paysages. Il se trouve que dans nos paysages, avec des reliefs pas très importants, malgré tout une très grande visibilité au loin sur nos paysages, une éolienne qui va faire 240 mètres de haut en haut de ses pales, eh bien, elle va complètement détruire, écraser ce paysage. Dernièrement, il y a eu un projet, justement, dans la commune où j'habite, à la limite de commune où j'habite. Il s'agit d'un pêche, donc une de ces petites collines qui dominent la plaine environnante. Une colline assez sauvage, naturellement. Elle porte un joli nom, d'ailleurs. Il porte un joli nom, ce pêche. Oui. Il s'appelle Thérèse, tu le connais aussi.
La truque de Bourdille.
La truque de Bourdille. Donc, la truque, c'est un vieux mot, mais qui a la même signification de petite colline que pêche.
D'accord.
Cette truque de Bourdille, il est question de mettre des éoliennes dessus. Eh bien, elle domine cette truque de 40-45 mètres, les labours environnement. On va planter au-dessus un machin de 240 mètres de haut. On va évidemment détruire tout, la vue pour tous ceux qui passent à côté, y compris pour ceux qui passent sur le chemin de Saint-Jacques à quelques centaines de mètres.
Bah, d'accord, mais si on ne fait pas ça, on fait une centrale nucléaire.
Alors, on peut faire des énergies renouvelables si elles, elles permettent de ne pas détruire. Je vais vous donner un exemple. Le photovoltaïque, c'est le cheval de bataille, c'est la principale axe qui a été retenue par le département pour les énergies renouvelables. Eh bien, si c'est fait au bon endroit, si c'est fait en cachant un peu avec de la végétation ce parc, si ça ne gâche pas des terres labourables, ben c'est très bien. Et on est tout à fait pour le développement de ces parcs photovoltaïques, si c'est bien fait.
Vous n'êtes pas à la SMPQ, Thérèse Drességuier, vous n'êtes pas, rassurez-moi, donc les emmerdeurs de service. Dès qu'on veut construire quelque chose, vous êtes là en disant non. Rassurez-nous.
Eh bien, ce que nous contrarions, vraisemblablement, nous qualifierons ainsi.
C'est pour ça que je l'utilise le terme.
Je ne le reprends pas, mais je l'entends bien. Non. Je crois qu'il faut savoir, ce que nous souhaitons, c'est composer avec le paysage. Nous avons pleinement conscience que tout change. Mais il me revient fréquemment à l'esprit cet épisode qui a été tellement tragique pour des personnes. Ça a été la création des barrages hydroélectriques, où on a ennoyé des villages entiers. Je ressens, j'imagine la tragédie. Mais aujourd'hui, qu'avons-nous ? Nous avons des vastes plans d'eau avec un développement touristique. Plantons les éoliennes dans nos paysages. Que lèguerons-nous à nos enfants ? Des épaves. Des épaves qui vont leur coûter cher à détruire et qui auront produit quoi comme énergie ? Peu, puisque c'est une énergie intermittente et imprévisible. Donc, j'ai l'intime conviction qu'avec certaines énergies renouvelables en fonction du lieu où elles sont implantées, il y a un détournement d'objectifs.
C'est-à-dire,
les commerciaux qui vont trouver les élus qui sont en mal pour maintenir un budget dans leur commune, on leur fait miroiter un abondement du budget. Ils se font, je ne les accuse pas, ils se font quasiment un devoir de prendre les ressources qui leur sont offertes. Mais on leur propose des ressources, on ne leur propose pas d'être pourvoyeurs d'énergie pour le territoire et pour le territoire national. Donc j'appelle ça un détournement d'objectifs.
Vous voulez dire par là qu'on installe des choses qui n'ont pas lieu parce que de toute manière elles ne serviront pas ? Elles n'auront pas le même rendement que...
C'est pas qu'elles ne serviront pas. C'est qu'elles serviront mal. On est dans une région qui est très peu venteuse. Et donc, pourquoi est-ce que, malgré tout, ils ont ce projet-là ? Alors que la rentabilité directe de l'électricité produite sera faible. C'est parce qu'il y a des soutiens financiers publics énormes, finalement payés par tous les consommateurs d'électricité, avec une jolie petite ligne sur la facture qui tient compte de cela. Il y a eu un rapport parlementaire en 2019, signé par tous les partis présents à l'Assemblée, qui a décrit ce phénomène. Et on est sur, je crois, plus de 70 milliards qui devraient être consacrés à l'éolien pour quelque chose qui, dans nos régions, n'est pas rentable. Ça peut l'être ailleurs. Ça peut l'être ailleurs. Pas ici.
Dans cette Oui, Thérèse.
Eh bien, moi, j'attends qu'on me dise ce que les 3 ou 4 éoliennes que nous avons dans le département sur la commune de Sousserac, c'est l'énergie qui est produite par ces éoliennes dans notre département. Pour le moment, il n'y a aucune communication sur la rentabilité, mais la rentabilité en termes de production de ces machines. Aucune communication là-dessus. Pourtant, ce serait un argument frappant si on pouvait nous démontrer leur production.
Dans cette conférence d'Alexandre Gady, dans le titre, il y a « Bilan à perspective ». Est-ce que son bilan va être catastrophique ?
Moi, je ne dirais pas ça. Vous savez, il y a des sujets sur lesquels il y a eu beaucoup de progrès de fait. il y a des projets qui ont été menés avec beaucoup plus d'attention que dans le passé. Je vais vous donner deux exemples. Le mitage du paysage, avec la possibilité qui était donnée à une époque de construire des maisons en haut des collines, n'importe où, et de ne pas les regrouper comme c'est souhaitable, à des endroits adaptés. Mais c'est terminé, ça. On ne peut plus le faire. Pour vous donner un autre exemple, qui date d'il y a quelques années, et notre association a été impliquée là-dedans. Il y a une autoroute qui traverse le Lot, rejoignant Paris à Toulouse. Eh bien, une autoroute, ça peut être nécessaire. Et on le reconnaît très bien. Ça peut être fait n'importe comment, ou ça peut être fait bien. Eh bien, celle-ci, elle a été faite bien, en essayant de préserver les paysages, en essayant de ne pas détruire des bâtiments intéressants au passage. Et des membres de notre association ont passé des semaines, ont fait des milliers de kilomètres pour repérer, aider à repérer les endroits où cette autoroute pouvait passer. L'architecte des bâtiments de France a donné la main d'ailleurs à cette opération qui est modèle. On peut faire bien tout en faisant des choses nouvelles.
Donc vous êtes bien mieux que des emmerdeurs de service. Vous êtes même justement là pour aider au final. Un groupement qui...
Oui, on peut le dire, on est là pour aider parce qu'on croit que ce qu'on défend, ce n'est pas des lubies d'amateurs du passé.
Vous n'êtes pas des extrémistes, quoi.
Non, d'une part, on n'est pas des extrémistes, d'autre part, on défend le bien commun. Parce que ces paysages, d'abord, ils sont beaux. Et la beauté, c'est quelque chose qui a une valeur en soi. Mais par ailleurs, sur un plan purement économique, ils sont très importants. Le Lot vit beaucoup du tourisme. C'est un département qui peut être attractif. Et donc, c'est extrêmement important de défendre cela.
Les perspectives pour l'avenir, vous la voyez comment, du coup
Il me revient à l'esprit ce que disait Mathieu Larry, le directeur du CAUE du Lot, lors de notre assemblée générale. Il nous disait le patrimoine, puisque le thème, c'est protéger le patrimoine, donc ça va... au-delà d'un combat occasionnel.
Puis le patrimoine, c'est au-delà que le pont Valentry, la cathédrale, c'est aussi tout un ensemble architectural construit d'il y a bien longtemps, quoi. Même plus modeste.
Absolument. Le patrimoine, eh bien, ça va du château et de la cathédrale jusqu'au modeste lavoir et à la petite fontaine, en passant par les maisons, les granges, etc. Donc, cette personne nous disait, le patrimoine, c'est notre héritage. Et un héritage, soit on le dilapide, soit on l'entretient et on le valorise. Et nous, notre souhait, justement, c'est de faire en sorte, un, qu'il ne soit surtout pas dilapidé, deux, qu'il soit entretenu, et pour le valoriser, ben, qu'on le valorise au mieux et dans l'intérêt de nous tous et en partenariat avec les trois acteurs, enfin, que nous considérons être les trois acteurs, l'État, au premier chef, mais pour donner l'impulsion, les élus, et ça, ce sont nos partenaires de terrain, et les associations qui représentent l'ensemble de nos concitoyens.
Cette conférence, donc, c'est samedi 30 octobre. Vous accueillez Alexandre Gady, professeur d'histoire de l'art à la Sorbonne et ardent pourfendeur des atteintes au patrimoine. Ça s'intitule « Protéger le patrimoine, l'État, les élus et les associations, bilan et perspective ». C'est à l'espace Clément Marot, donc c'est juste en dessous de nos studios. Donc voilà, c'est à 16h30 ce samedi. L'entrée est libre ?
L'entrée est libre.
Passe sanitaire. Obligé. Et puis un petit cocktail et puis surtout une petite carte postale en quelques mots, très rapide parce qu'on arrive
souvenir,
à la fin.
Eh bien, c'est une carte postale qui fera le lien avec l'inspirateur dont on a parlé tout à l'heure, le docteur Kella. Donc une carte des années 50 qui est superbe.
Enfin, en tout cas, la discussion pourrait être encore beaucoup plus longue. 25 minutes, c'est pas suffisant au final quand on y pense, quand on veut parler de patrimoine, de ce patrimoine-là et pas celui que l'on veut toujours entendre parler, même si celui-là, il faut pas l'ignorer non plus et qu'il faut toujours le protéger. Mais c'est vrai qu'on a un peu de mal à imaginer qu'une maison dans le Quercy, ça peut faire effectivement partie du patrimoine. Tout comme quand je vais me balader dans les forêts et que je vois ces vieilles maisons qui servaient sûrement pour les éleveurs, les bergers ou je sais pas quoi, qui sont en ruine où il n'y a que les murs, eh ben, c'est vrai que ça fait partie de ce patrimoine et des fois ça fait un petit peu mal aussi, il faut dire. Et heureusement, il y a la SMPQ, l'association pour la sauvegarde des maisons et paysages du Quercy, qui est là et qui fête ses 50 ans. Merci beaucoup Thérèse Resseguier d'être passée.
Merci.
C'était avec plaisir et merci de nous avoir reçus.
Et ben, vous êtes toujours les bienvenus et merci Olivier Pretelard.
Merci bien.
Cette émission est à réécouter en podcast sur cfmradio.fr et tout à l'heure en rediffusion à 17h et à 21h30. Dans un instant, le journal.